Les experts européens.
Les experts européens.
Roland Pérez.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivia.
Bonjour Roland.
Ce n'est plus à la veille de l'été que l'on pense au régime, mais quasiment tous les jours. Et ce, pour plus d'un Français sur deux. On a du mal à se priver pour faire attention à notre ligne. On est sensible au regard des autres sur notre silhouette. Et d'ailleurs, plus d'un tiers des Français déclarent suivre un régime. Mincir efficacement et durablement sans régime, c'est le pari incroyable des experts de l'été cet après-midi. Car on va voir que le régime en tant que tel a très mauvaise réputation. On va voir que pour maigrir, il ne suffit pas de perdre des kilos. C'est dans la tête que cela se passe, dans l'image que vous avez de vous-même et dans vos relations aux autres. Cette émission vous concerne forcément, d'autant que ce qui va être dit et démontré, c'est probablement la première fois que vous allez l'entendre. Allez, c'est parti pour connaître les clés pour devenir mince et surtout le rester.
Les experts européens.
Roland Pérez.
Le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gras.
Aïe, aïe.
Le riz au lait, le riz pour le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartin, le homard, le fromage et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouffret, le jeu fraîche en bertin.
Faut se priver de faisant parmesan, de ragoût, de goulash et de frites.
Et oui, pour commencer cette émission, on ne pouvait pas se passer de la chanson hypocalorique composée et interprétée par Alice Donard. Alors celui qui va nous accompagner pour cette émission n'est pas un médecin nutritionniste comme les médecins vedettes qui distillent dans tous les médias leurs recettes magiques pour maigrir, mais un médecin, psychiatre, psychothérapeute Gérard Apfeldorfer, qui est spécialiste des troubles du comportement alimentaire. Il est notamment l'auteur d'un livre qui vient d'être réédité. Il est réédité quasiment tous les trois ans depuis 1997. C'est un véritable livre record. Livre donc réédité aux éditions Odile Jacob. Maigrir, c'est dans la tête. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour.
Merci de nous accompagner pour cette émission. Alors vous commencez très fort hein, dès l'introduction de ce livre, puisque vous dites que pour devenir mince, perdre des kilos ne suffit pas.
Oui, tout à fait. Perdre des kilos, somme toute, c'est assez facile. La plupart des gens y arrivent. Mais malheureusement, les kilos ont tendance à revenir. Donc il ne s'agit pas de perdre quelque chose, il s'agit plutôt de gagner quelque chose. Il s'agit de gagner de la minceur, de gagner un nouveau comportement alimentaire, finalement de faire la paix avec son corps, d'arriver à manger sur un mode intuitif, en écoutant son corps, finalement de laisser la bride sur le cou à son corps pour finalement obéir au message qu'il nous adresse.
Alors, moi, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit que finalement, on brûlait les étapes quand on veut maigrir, enfin quand on veut mincir. On brûle les étapes, c'est-à-dire qu'on commence un régime et on se pose pas les vraies questions de cette motivation pour commencer un régime. Et c'est ce qu'il faut faire.
Tout à fait. Les gens sont généralement très pressés. Ils voudraient une sorte de fée bleue qui les toucherait avec sa baguette magique. Et puis, ils seraient minces. Hop, ça y est, voilà, je suis mince. Mais je rappelle que c'est comme l'histoire de Cendrillon, au 12e coup de minuit, on redevient gros.
Alors justement, quelles sont les raisons habituelles pour commencer un régime? Alors il y a des problèmes de santé, des raisons de santé. Il faut les chercher, il faut les trouver.
Bien sûr, il y a plein de gens qui ont des raisons tout à fait importantes de maigrir. L'obésité, à partir d'un certain niveau, devient une maladie en soi. Et peut aussi aggraver toute une série de maladies, le diabète, les troubles cardiovasculaires, et ainsi de suite. Mais finalement, on se rend compte que ça n'est pas la motivation la plus puissante pour maigrir. Souvent, c'est une motivation de départ. Il faut que je maigrisse. Mon médecin me dit qu'il est impératif que je maigrisse. Mais ça n'est pas quelque chose qui vous permet d'installer quelque chose dans la durée. On s'aperçoit que ce qui est plus motivant, finalement, ce sont des choses plus simples. Être bien dans son corps, être bien dans ses vêtements.
Bien-être physique, oui.
Voilà. Être bien dans sa peau et être bien dans son comportement alimentaire. Ça, c'est beaucoup plus solide.
Alors, vous rabâchez, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment le cas dans votre livre. Vous dites qu'il mieux vaut ne pas maigrir que sempiternellement maigrir et regrossir.
Ah oui, tout à fait, parce que c'est beaucoup plus mauvais pour la santé de faire le yo-yo, de prendre du poids, enfin de perdre du poids et de le reprendre, d'autant plus que généralement on en reprend plus qu'on en a perdu, que finalement d'avoir un poids élevé et stable.
Le fait de se dire qu'on va être un peu comme tout le monde pour être mieux dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, avoir une apparence physique plus conforme à ce qu'on croit être les codes de la société, c'est un bon motif ou pas?
Je dirais pas trop finalement, parce que finalement, ce qui nous fait agir à ce moment-là, c'est la honte d'être ce qu'on est, d'avoir le physique que l'on a. Et la honte est un sentiment extrêmement corrosif, extrêmement destructeur de la personnalité. Lorsque l'on est honteux d'être ce que l'on est, eh bien, on souffre énormément. C'est extrêmement paralysant, extrêmement corrosif. On perd finalement tous ses moyens. Ça n'est pas forcément une bonne chose. Mieux vaut plutôt, au contraire, installer quelque chose de positif, vivre sa vie au moment présent, tel que je suis aujourd'hui, et travailler à ce que mon physique s'améliore dans la durée. Mais la vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. C'est pas quand je serai mince.
Donc, on le voit bien, dès le début, pour commencer un régime, c'est la motivation. Quelles sont véritablement nos motivations? Il faut vraiment s'introspecter pour connaître nos motivations. Quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises? Comment on fait le tri pour savoir que bah, finalement un régime va marcher parce qu'on aura trouvé les bonnes motivations, ou un régime ne va pas marcher parce qu'on aura, on l'aura fait pour de mauvaises motivations?
Moi, je dirais que finalement, ce qui fait que ça va marcher ou pas marcher, c'est plutôt le désir de contrôle. Soit je suis dans le contrôle, je veux contrôler mon corps, je veux le forcer à maigrir, et à ce moment-là, je suis en guerre contre mon corps et contre mes kilos, ou bien je suis dans une attitude plutôt d'apaisement, je suis dans l'obéissance de mon corps, je vais écouter mes sensations alimentaires, je vais faire ce que mon corps me dit de faire, et à ce moment-là, c'est mon corps qui a les rênes, c'est mon corps qui commande, et moi j'obéis. Et à ce moment-là, mon poids va régresser jusqu'au poids d'équilibre, ce qu'on appelle le poids d'équilibre, qui est le poids où nous nous stabilisons lorsque nous avons un comportement alimentaire où nous écoutons notre faim, notre satiété et nos désirs alimentaires.
Alors, un des travers que l'on a tous, c'est que lorsqu'on commence un régime, on a l'impression de se punir. Et il ne faut surtout pas se punir.
Et voilà, c'est ça le problème des régimes. Alors, moi, je pense que vous parlez de régime. Là, ce qu'il faut avec les régimes, c'est surtout pas les commencer. Il faut faire zéro régime. Les régimes sont quelque chose d'extrêmement toxique. On le sait aujourd'hui, il y a eu différentes études internationales sur les régimes. On sait que les régimes ne marchent pas dans la durée. Ils marchent sur le court terme, c'est-à-dire 6 mois, 1 an. Mais au bout de ce temps-là, sur 2 ans, sur 3 ans, on reprend toujours le poids. Toutes les études internationales le démontrent. Et donc faire un régime, c'est-à-dire finalement chercher à prendre le contrôle de son corps et de son comportement alimentaire, ça n'est pas une bonne idée.
Ben, c'est ce que nous dit d'ailleurs Vanessa, qui vient de nous appeler au 3921. Bonjour Vanessa.
Oui, bonjour.
Vous êtes d'accord avec le docteur Appel d'Offert?
Eh oui, malheureusement, là, tout ce que je viens d'entendre, c'est exactement tout ce que je fais, donc il ne faut pas faire, a priori.
Ouais.
En l'occurrence, effectivement, moi, j'ai la sensation d'être punie depuis... Ça fait 3 semaines là, que j'ai commencé un régime, une méthode avec du coaching. Tous les jours, on reçoit un mail, il y a une vidéo, etc., des plans de repas. Bon, ça aide beaucoup. Mais moi, depuis 3 semaines, bon, j'ai l'impression que passer à table, c'est devenu une punition. C'est exactement le mot que vous employez tout à l'heure. Mmh. Donc, je vois les autres manger de bonnes choses. Et puis moi, ben, c'est sans huile, sans beurre, sans sucre. Voilà. Donc c'est très, très, très frustrant. Donc, j'ai pas le moral, en fait, depuis que j'ai commencé. Il y a même des jours où j'ai pleuré en montant sur la balance parce qu'en plus ça marche pas trop.
C'est la première fois que vous commencez un régime, Vanessa?
Alors, en fait, moi jusqu'à 40 ans, là j'ai 42 ans, et jusqu'à 40 ans, j'avais un poids relativement stable, des petits kilos d'hiver, on va dire, puis qui repartaient tranquillement. Et puis à partir de 40
et
ans...
Ouais, le métabolisme change, ouais.
Voilà, donc un jour, ma généraliste me dit, je pensais avoir un problème de santé. Elle me dit, ben non, ce que vous mangez avant qui faisait rien, ben maintenant, ça vous fait grossir. Je dis, ah, super, donc qu'est-ce que je fais? Elle dit, ben, faut plus manger les petits gâteaux, les petits apéros, les petits chocolats, les petits machins. Bon, donc, bon, je n'ai pas trop prêté attention à ce qu'elle m'a dit. Sauf que, ben, petit à petit, j'ai pris du poids de 1 ou 2 kilos, comme ça, mes parents. Mmh. Et puis, ben, l'année dernière, je me suis mariée. Donc, l'année qui a précédé le mariage, j'ai fait très attention. J'ai suivi un ou deux petits régimes pour essayer de rentrer dans ma robe. Et puis, j'ai atteint mon objectif. Et puis, après le mariage, en fait, ça a été une double dégringolade, on va dire. Parce que non seulement ben, le mariage était fini, donc c'est 1 an de préparatif où on est surexcité. Puis, d'un coup, le moral retombe. Et puis là, je pense que je me suis réfugiée dans la nourriture aussi. Voilà, pour compenser, j'avais plus grand chose à faire. Enfin, si, j'ai du travail, j'ai une vie, Ouais. Il n'y avait plus cette émulation.
Vanessa, ouais. J'ai vraiment envie de vous dire que cette émission, elle est pour vous et pour plein d'autres. On est tous un peu comme vous. Vraiment, vraiment, restez avec nous. Merci ouais. beaucoup pour votre témoignage, Vanessa. Restez avec nous parce qu'on va marquer une courte pause là. On vient de voir les différentes motivations qui peuvent conduire à décider de maigrir. On voit que on peut faire un bilan des différentes motivations, santé, confort physique, séduction. Maintenant, vraiment, restez avec nous. On va vous donner les clés du comportement alimentaire pour changer. 3921, continuez à nous appeler ou sur europe1.fr, continuez à nous écrire.
Les experts européens.
Cet après-midi avec les experts européens, nous vous proposons une approche novatrice pour devenir ou redevenir mince, tout en mangeant de tout avec plaisir, y compris les aliments particulièrement caloriques. Adieu stress et culpabilité pour briguer la minceur. On attend vos questions et vos témoignages au 39-21, 34 centimes d'euros la minute, ou vos courriels sur europe1.fr.
Et on a un expert miracle. Il s'appelle le docteur Apfeldoffer. Il est psychiatre et psychothérapeute et spécialisé des troubles du comportement alimentaire et auteur d'un livre qui est paru depuis 1997, mais qui est sans cesse réédité aux éditions Odile Jacob, « Maigrir, c'est dans la tête ». Ça fait longtemps, docteur, que vous dénoncez l'inefficacité des régimes amaigrissants, et il est vrai que la plupart des personnes qui se restreignent pour maigrir reprennent leur poids, voire plus dans les années suivantes, et vous avez donc mis au point une véritable méthode qui porte votre nom, la méthode Apfeldoffer.
N'exagérons rien, c'est pas vraiment la méthode Apfeldoffer. Non, je pense qu'on se rattache finalement à un mouvement d'alimentation intuitive, en anglais « intuitive eating », qui est un mouvement mondial et qui est centré sur justement finalement une alimentation qui serait physiologique, qui est un retour à la physiologie du corps et à l'écoute finalement de ce que nous dit notre corps, des messages qu'il nous adresse, la faim, la satiété, les appétences que nous pouvons avoir. Et j'ai un peu le sentiment que ce mouvement est en train de se généraliser parce que justement face à l'échec des régimes qui est maintenant patent, il faut bien proposer autre chose.
Alors, pour modifier son comportement alimentaire, la première chose que vous conseillez dans votre livre, c'est de tenir un carnet.
Voilà, alors tenir un carnet, mais, ça, je vais vous dire, c'est assez banal. Hein, tous les nutritionnistes font tenir des carnets. Des carnets alimentaires où on note tout ce que l'on mange.
Après, il y a d'autres types de carnets.
Mais
après,
ce qui est important dans un carnet, c'est d'abord de prendre conscience de ce que l'on mange, de prendre conscience des quantités que l'on mange, de ce que l'on mange. Et puis surtout, de savoir pourquoi on le mange. Qu'est-ce qui nous fait manger? Est-ce que c'est la faim qui nous fait manger? Ou bien est-ce que ce sont des envies de manger émotionnelles? Est-ce que nous mangeons pour nous défendre de nos émotions? Et ça, c'est très important de faire la distinction, parce que les réponses, les solutions ne vont pas être les mêmes.
Alors je vois, moi, par exemple, quand je travaille, et je l'ai lu dans votre livre, quand on travaille quelquefois, on a du mal à se concentrer, tout d'un coup on a envie de grignoter, on a une espèce d'envie irrésistible d'ouvrir le réfrigérateur, de prendre un morceau de chocolat ou d'aller grignoter un gâteau, et on ne résiste pas. Et finalement, vous le dénoncez dans votre livre, ça.
Alors je le dénonce, disons qu'effectivement...
On ne doit pas s'interdire, mais pour autant...
Moi, je ne suis pas pour les interdits, de toute façon. Mais effectivement, on utilise la nourriture pour toutes sortes de choses, finalement. C'est une réponse univoque à plein de problèmes. Donc, évidemment, la faim, les envies de manger émotionnelles, je l'ai dit, mais ça peut aussi servir de stimulant. Hein, quand vous mangez quelque chose qui est très sucré, ça vous donne un petit coup de fouet. Et donc, pour travailler, ça paraît bien. Ça peut servir à plein d'autres choses aussi. Combler son ennui, faire face à toutes sortes de difficultés. Et finalement, c'est un peu le problème de la nourriture. C'est que c'est une réponse qui se généralise et qui devient la solution à tout.
On accueille Lydie au 39-21. Bonjour Lydie.
Bonjour.
Alors vous étiez boulimique à l'époque.
Oui.
Et aujourd'hui, vous avez arrêté de l'être, ou en tout cas, vous avez arrêté de vous faire vomir en étant boulimique. Et vous avez pris un certain nombre de kilos, Lydie. Expliquez-nous.
En fait, c'est assez simple. Donc j'ai été boulimique pendant 25 ans, j'ai essayé de me faire soigner, mais j'ai toujours ces crises, comment on va dire, j'ai des problèmes de quantité de nourriture, je suis jamais rassasiée, et jusqu'à maintenant j'ai réussi à maintenir un poids tout à fait honorable pendant des années, et je suis, en plus de ça, j'ai une hypothyroïdie soignée depuis 10 ans, et cet hiver, allez savoir pourquoi, j'ai pris 17 kilos, enfin pas cet hiver, depuis le mois de mai l'année dernière, j'ai pris 17 kilos. Et donc je ne me suis pas vraiment alarmée au départ, parce que je les ai pris bien sûr en un an. Et quand j'ai voulu faire les régimes, que je faisais habituellement pour perdre les 3-4 kilos qu'on prend dans l'hiver, là, je me suis rendu compte que je ne maigrissais pas. Donc, j'ai cru que c'était un problème de thyroïde de nouveau, ce qui n'était pas le cas. Après, on m'a dit que j'étais ménopausée, ce qui n'était aussi pas le cas, puisque je suis plutôt en préménopause, étant donné que j'ai 51 ans. Et aujourd'hui, j'ai toujours mes 17 kilos. C'est une catastrophe parce que je m'accepte pas du tout comme ça. Je souffre vraiment. Et malgré avoir fait de l'hypnose cet hiver, de l'acupuncture aussi, rien n'y fait, je ne perds pas ces kilos.
Alors Lydie, comme votre question est tout à fait sérieuse et qu'on veut prendre le temps de vous répondre, vous allez rester avec nous, on va marquer juste une petite courte pause pour quelques réclames et vous restez avec nous, on va vous répondre, le docteur Gérard Apfeldorfer va vous répondre juste après cette courte pause. Merci.
Les experts Europe 1, tous les jours, 15h, 16h.
Roland Pérez.
On est toujours avec le docteur Gérard Apfeldorfer qui est là pour vous aider à maîtriser vos comportements alimentaires et faire en sorte de devenir mince et le rester. Continuez à nous appeler au 3921 ou à nous écrire sur europe1.fr. Nous étions avec Lydie juste avant cette coupure musicale. Lydie qui nous rappelait qu'elle était avant boulimique, vomisseuse depuis 25 ans. Elle a arrêté de se faire vomir. Elle a pris 17 kilos en un an. Elle a essayé tous les régimes imaginables. Et rien ne marche, docteur.
Oui, alors bonjour Lydie.
Bonjour.
Alors oui, je comprends que effectivement vous ayez pris du poids à partir du moment où vous avez arrêté les vomissements. Vous avez utilisé pendant très longtemps le système de la boulimie et du vomissement pour contrôler votre poids. Puis à partir du moment où vous ne gardez que les boulimies et pas les vomissements, c'est sûr que ça ne peut pas. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer? Et puis ce que vous disiez aussi, c'est que vous fonctionnez beaucoup par sur le volume, si vous voulez. Mais ça, c'est normal, vous êtes une boulimique et vous mangez au volume. Alors, c'est pas une façon normale de manger au volume. Normalement, on mange avec la bouche, on mange pas avec le ventre. Et une des choses que vous devriez pouvoir réapprendre, c'est manger avec la bouche, déguster, savourer et pouvoir vous arrêter quand vous arrivez au rassasiement. Au rassasiement gustatif, ce qu'on appelle le rassasiement gustatif, le terme scientifique, c'est rassasiement sensoriel spécifique. Eh bien, c'est la fin du plaisir à manger en bouche. Et ça, je suis sûr que vous ne savez pas le faire.
Ah non,
la deuxième chose que vous ne savez pas faire, c'est écouter vos émotions, accepter vos émotions, vivre vos émotions. Et probablement que c'est lorsque vous avez des émotions que vous fonctionnez sur le mode boulimique pour finalement étouffer vos émotions que vous ne savez pas vivre. Et là, c'est le deuxième volet sur lequel il vous faudrait travailler. Alors, j'ai trois solutions à vous proposer sur le plan concret. Premièrement, lire mon livre.
Oui.
Voilà. Deuxièmement, allez voir du côté d'un site internet qui s'appelle linecoaching.com que nous avons mis en place.
Line
coaching. .com que nous avons mis en place, que nous avons créé avec Jean-Philippe Zermati sur les principes thérapeutiques que nous utilisons. Et puis, la troisième solution, c'est d'aller voir toujours sur Internet le site du gros, gros.org, sur lequel vous pourrez trouver des adresses de thérapeutes qui travaillent à notre façon.
Et le quatrième conseil, c'est de continuer surtout à écouter cette émission, ma chère Lydie. Merci. Allez, une nouvelle petite pause et on revient très vite pour vous aider à modérer votre appétit sans vous restreindre et sans retomber parfois dans l'excès.
Les experts Europe 1, tous les jours, 15h, 16h.
Roland Pérez.
Maigrir à tout prix, devenir fin et lancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou?
C'était un extrait de San Severino sur Europe 1. Maigrir, et c'est le sujet des experts aujourd'hui. Comment modérer son appétit sans se restreindre et sans retomber parfois dans l'excès? C'est ce que l'on vous explique cet après-midi. Donc avec les experts, cette émission est faite pour vous, vous le savez. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 39 21 34 centimes d'euros la minute ou à nous écrire sur europe1.fr. Et nous sommes toujours avec le docteur Apfeldorfer, psychiatre et auteur d'un livre publié aux éditions Odile Jacob. Maigrir, c'est dans la tête.
Gérard, la presse est friande de ces prétendues techniques qui consistent à maigrir sans se priver, de ces régimes gourmands. Est-ce que c'est pas là une escroquerie de langage?
Bah oui, souvent c'est des régimes qui n'ont que le mot gourmand, si vous voulez. C'est pas vraiment des régimes gourmands. Vous aimez le chocolat et on vous dit de manger des machins allégés, prétendument gourmands. Et en fait, ça vous fait pas vraiment plaisir. Souvent, on remplace des aliments, les vrais aliments que nous aimons vraiment, qui sont très souvent des aliments très nourrissants, par des aliments light. Mais en fait, quand vous remplacez un yaourt à zéro pour un vrai yaourt au lait entier par deux, par un yaourt à 0%, la réalité, c'est que même si ce yaourt a bon goût et paraît bien, vous vous retrouvez à en manger deux au lieu d'un.
D'accord. Vous dites d'ailleurs que plus d'interdits et de restrictions débouche tôt ou tard à plus d'excès, sur plus d'excès.
Oui, tout à fait. Plus on se restreint, plus on fait un régime. Finalement, on peut faire des régimes. C'est tout à fait faisable. Mais pas longtemps. Pas si longtemps que ça. Au bout de 2 ans, 1 an, disons, la plupart du temps c'est 1 an, mais des fois 2 ans, quelquefois 3 ans, eh bien, on finit par craquer. Et à ce moment-là, on se remet à manger tout ce qu'on s'était interdit avant.
On accueille Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Roland.
Vous n'avez pas craqué, vous ?
Si, j'ai repris un peu, j'avoue, j'ai repris un peu.
Oui, alors je lis votre fiche. Hein. Vous faisiez 105 kilos.
Oui.
Et en un an, vous avez perdu 20 kilos, mais vous le dites, je suis obligé de me restreindre.
Là, je continue toujours mon régime, s'il vous plaît.
Vous continuez toujours votre... Quel type de régime faites-vous ? Alors, c'est quoi ? Vous avez réduit votre alimentation, votre quantité d'alimentaire ?
En fait, si vous voulez, j'arrêtais pas de manger jour et nuit.
Ah ouais.
Puis il y a un copain qui m'a dit si ça continue, je te prends pas comme ouvrier rigolant. Puis moi, je l'ai pris au prix de la lettre. Puis après, j'étais voir mon médecin traitant. Il m'a envoyé à l'hôpital. Et puis pendant 5 jours, je suis à l'hôpital qui m'ont donné des conseils. Puis là, après, j'ai vécu, quoi. Après, je pouvais plus rien faire. Après, ils m'ont donné des conseils pour manger mieux. Donc, je mange 300... Au début, je mangeais 300 grammes de féculents tous les jours.
Mmh. Mais vous avez compris pourquoi vous aviez ces fringales
Je mangeais comme ça.
Mais vous saviez pourquoi? Vous avez analysé les raisons?
Il y a mon meilleur ami qui est parti.
Oui.
J'ai perdu mon travail au même moment. Tout est arrivé au même moment, quoi.
Il faut comprendre les raisons, docteur.
Ah oui, ça paraît très important. Bonjour Jean-Pierre, là, je vois que vous êtes vraiment dans une difficulté, je dirais, parce que vous avez entamé un régime, vous maigrissez, mais vous voyez bien que finalement, le contrôle devient de plus en plus difficile. Plus le temps passe, plus le contrôle est difficile. Et en fait, vous rendez bien compte que ce qui vous a fait manger, en fait, et ce qui a fait que vous avez grossi, eh bien, ce sont des problèmes émotionnels essentiellement. Et je regrette qu'on ne vous ait pas orienté vers un travail psychologique et émotionnel,
si,
vu... Comment ?
Si, après, on m'a proposé...
Ah, vous l'a proposé. Ah, très bien, on vous l'a proposé. Je crois que c'est l'élément le plus important, hein, de faire ce travail-là. Probablement aussi, à partir du moment où vous arriverez à ne plus manger autant en fonction de vos émotions, arriver à finalement retrouver une alimentation qui ne soit pas contraignante, qui ne soit pas restrictive. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation qui n'est pas restrictive ? C'est une alimentation qui est guidée par nos sensations alimentaires. On mange quand on a faim, on s'arrête de manger quand on est rassasié, on mange ce dont on a envie de manger et rien d'autre. Et ça, c'est tout un travail à mettre en place.
D'ailleurs, docteur, vous donnez une sorte de technique pour y arriver, celle de séparer un aliment que l'on adore en deux parts inégales. La plus petite part est celle que l'on va manger et la plus grosse, celle qu'on va jeter.
Voilà. Alors ça, c'est un exercice que je donne souvent à mes patients, qui est un exercice simplement. Mais l'idée générale, c'est d'être capable de manger ce qu'il me faut et de laisser le reste. Moi, quand je vais au restaurant, par exemple, je vais dans une pizzeria, eh bien, je m'aperçois, en regardant les tables autour de moi, qu'il y a des gens qui ne finissent pas leur pizza. Et puis, il y en a d'autres qui finissent tout ce qu'ils ont dans l'assiette.
Et bien, même la pizza du voisin.
Oui, voilà, exactement.
Qui vous accompagne.
Et comme par hasard, les gens minces, ce sont les gens qui sont capables de dire, j'ai eu ce que je voulais, la pizza était délicieuse, mais ça y est, j'ai plus faim, alors je vois pas pourquoi j'en mangerai plus.
Jean-Pierre, merci beaucoup pour votre appel. On accueille Pascal. Jean-Pierre, pardon, on a beaucoup, beaucoup d'appels. Merci beaucoup vraiment pour votre appel. Restez avec nous parce que vous allez écouter le témoignage de Pascal qui est tout le contraire de vous. Bonjour Pascal.
Bonjour Monsieur Pérez, bonjour docteur. Moi je vous explique. En 1 an, j'ai perdu 30 kilos en simplement bannissant un mot horrible de mon vocabulaire qui est le mot de régime. Je ne mangeais rien que des produits allégés.
Là, vous donnez la banane au docteur hein, qui est avec nous en studio.
Vous me faites plaisir.
Écoutez, voilà. Et si vous avez une explication, je suis preneuse de l'explication, docteur. Je ne mangeais rien que des produits allégés en très petite quantité Et sur le peu que je lui donnais, mon corps faisait du stock. Donc, un jour, j'ai fini par m'accepter et dire « Basta, ça suffit, tant pis, les gens riront dans mon dos, mais ça n'est pas très grave, je suis comme ça, je vais vivre comme ça. » Et à partir du jour où je ne me suis plus souciée de mon apparence et où j'ai recommencé à manger de manière variée, équilibrée et correcte, j'ai commencé à perdre du poids.
Vous avez
en
lâché
une semaine,
prise.
J'ai perdu 5 kilos.
Pascal, vous avez lâché prise.
Complètement.
Voilà.
Docteur ?
Bah écoutez, je pense que voilà, vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire. Hein. Vous étiez dans la contrainte et ça vous empêchait de maigrir. Vous avez lâché prise. Vous vous êtes dit bon bah voilà, il y a des choses que j'aime, bah, je vais les manger. Je m'accepte tel que je suis. Je ne me suis plus en bagarre contre mon corps. Je ne suis plus en bagarre avec mon comportement alimentaire. Tout ça s'est apaisé. Vous avez commencé à maigrir. Vraiment, vous me faites très plaisir en disant ça.
Merci Pascal de nous avoir appelé. On accueille Corinne Cosseron.
Bonjour.
Corinne, alors vous avez une méthode pour maigrir, c'est le rire.
En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'école du rire et du bonheur que j'ai créée il y a 12 ans, on enseigne la rigologie, qui est une technique de développement du bonheur, où on se connecte au meilleur de nous-mêmes et où on s'occupe à la fois de nos émotions, de nos ressentis corporels et de nos pensées. Enfin, on travaille dans la globalité des choses. Et moi, je suis une ronde, une grosse ronde même, par moments, très sphérique. Et je me suis rendu compte que j'appliquais pas à moi-même ce que j'enseignais toute la journée à l'école et que je m'occupais pas assez de mon corps, que j'écoutais pas les besoins de mon corps et que dans une certaine mesure je ne l'aimais pas assez et je ne m'aimais pas assez. Et je me suis demandé dans quelle mesure ce que j'enseignais pouvait être appliqué aussi au problème qui était le mien, à savoir le fait d'être trop grosse. Et en fait, donc j'ai appliqué toutes nos techniques qui consistent à écouter nos émotions, à trouver un espace pour les exprimer, à nous connecter au meilleur de nous-mêmes, à essayer de développer notre bonheur. Et je me suis dit, en fait, j'ai toujours pensé que quand j'aurais perdu du poids, je serais plus heureuse. Et il faut vraisemblablement que je tourne le problème dans l'autre sens, que je m'occupe de davantage être heureuse maintenant et de davantage m'aimer. Et ça va sûrement marcher pour perdre du poids. Et ça a été le cas. C'est en cela que j'ai utilisé le rire, la joie de vivre, l'écoute des émotions et le développement du bonheur pour perdre du poids, en plus dans la légèreté et dans l'agrément.
Est-ce que je peux vous proposer, demain on traite d'une émission sur l'optimisme, est-ce que vous pourrez être avec nous également, Corinne Cosseron, au téléphone? Alors je vais rappeler, alors vous avez écrit donc ce livre qui s'appelle « Maigrir en riant ».
Oui.
Ce livre, alors on va me donner les éditions parce que je ne l'avais pas.
C'est Très Daniel.
Voilà, Très Daniel, les éditions Très Daniel. Aujourd'hui, vous vous êtes accepté tel quel, et je pense que c'est le message que l'on doit passer, c'est-à-dire il faut déjà s'accepter tel que l'on est pour ensuite envisager avec une totale relaxation et un total bonheur, éventuellement de mincir.
Alors c'est pas forcément accepter le poids qu'on pèse, parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie d'accepter ce poids-là, mais c'est accepter de refaire la paix avec son corps. Et en fait, par exemple, on utilise beaucoup dans la rigologie et dans l'utilisation de maigrir en riant, on utilise beaucoup la pleine conscience et la méditation et aussi des exercices qui peuvent être ludiques. Mais par exemple, à chaque repas, en tout cas chaque première bouchée, on va la manger en pleine conscience pour bien la sentir. Et puis, il va y avoir une rééducation pour essayer de savoir quand est-ce qu'on a vraiment faim, est-ce qu'on a vraiment faim de nourriture ou d'autre chose, est-ce qu'on a faim d'avoir envie de changer les idées, d'appeler quelqu'un qui nous fait rigoler ou d'aller marcher, ou est-ce qu'on a faim de nourriture. Et on va aussi faire des jeux, des choses un peu ludiques, et on va essayer de dédramatiser ça et de se reconnecter à tout ça. Donc évidemment, on est très très loin des régimes, puisque les régimes, je pense que j'ai dû faire à peu près tous ceux qui existent et même tous ceux qui n'existent pas. Il y a toujours un moment où ça s'arrête et où on va reprendre les kilos perdus pendant les régimes. Donc là, c'est vraiment autre chose, c'est une histoire de faire la paix avec soi-même, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à s'écouter et apprendre à essayer de ressentir quand on a faim, de quoi on a faim et arrêter de manger, etc. Et moi, alors là, par exemple, j'ai repris du poids parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi. Ça prend du temps de s'occuper de soi de manger en conscience.
C'est ce que dit notre expert, le docteur Gérard Feldelfer, dans son livre. C'est un peu la méthode c'est quasiment la méthode que vous préconisez.
Ah bah écoutez, Corinne, on est tout à fait sur la même longueur d'onde.
Vous riez beaucoup, docteur.
Je pense que je ris beaucoup. D'accord. Oui, tout à fait. Effectivement, alors je suis d'accord aussi avec vous pour l'utilisation de la pleine conscience que nous utilisons de plus en plus. Et sur le site linecoaching.com dont je parlais tout à l'heure, on utilise les techniques de la pleine conscience pour travailler sur les émotions.
Je connais votre site et j'adore tout ce que vous avez fait. D'ailleurs, il est très ludique et il est très juste. Je pense que quand on a, c'est du bon sens, aussi bien ce que vous préconisez que ce que nous préconisons, c'est d'essayer de redonner le pouvoir aux personnes qui sont en surpoids. On a les clés, nous.
Corinne, et nous on va redonner l'antenne à ceux qui nous appellent, donc merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Maigret en riant, édition Guy Trédaniel. À demain, on marque une courte pause et on se retrouve toujours pour maigrir en riant, se relaxant et sans contraintes et restrictions.
Les experts européens.
Être à l'écoute de sa faim, de ses envies de manger et ne pas manger lorsqu'on n'a pas faim, c'est l'une des clés cet après-midi pour maigrir durablement. Le docteur Gérard Apfeldorfer, psychiatre et spécialiste du comportement alimentaire, répond à toutes nos questions et surtout combat toutes les idées reçues sur les régimes qui font le plus souvent grossir. Maigrir, c'est dans la tête, c'est ce que l'on vous propose cet après-midi avec Roland Pérez. Vous pouvez nous appeler au 3921, 34 centimes d'euros la minute, ou nous écrire sur europe1.fr.
Docteur, vous combattez ce que vous appelez les comportements rigides, c'est-à-dire que si le matin, par exemple, on n'a pas faim, on ne devrait pas forcément prendre un petit déjeuner en se disant « il nous faut des vitamines, il faut tenir jusqu'au déjeuner, il faut écouter sa tête, son corps ».
Oui, tout à fait. La plupart du temps, beaucoup de gens n'ont pas faim le matin au petit déjeuner au saut du lit. Et donc, ils se forcent à manger un petit déjeuner pour des raisons diététiques, qui est parfaitement inutile. Pourquoi manger quand on n'a pas faim? Alors, si on ne mange pas le matin, peut-être que dans la matinée, on aura un petit creux et à ce moment-là, on prendra une collation, si possible, qui nous conduira jusqu'au déjeuner. Et de cette façon-là, on retombe sur ses pattes.
On a chevillé au corps les mauvaises habitudes que l'on nous a données. Moi, je sais que lorsque j'étais petit, partir sans prendre un petit déjeuner, c'était impossible chez moi. Nos parents, nous forçaient à prendre un petit déjeuner, nous forçaient même à bien manger.
Je suis d'accord avec vous. Ça devient dramatique parce que pour les enfants en particulier, la consigne aujourd'hui, c'est d'interdire aux enfants d'avoir une collation. À l'école, c'est interdit d'apporter des aliments pour pouvoir manger quelque chose pendant la cour de récréation. Il faut absolument manger quand on n'a pas faim à la cantine. Finalement, on est en train de faire des enfants qui ne peuvent pas écouter leurs sensations alimentaires et réguler correctement leur alimentation.
Et c'est compliqué après de combattre tout cela, toute cette éducation alimentaire qu'on a reçue. Tous les nutritionnistes s'accordent de dire que ce n'est pas bon de sauter un repas.
Alors, c'est pas bon de sauter un repas si on a faim, mais si on n'a pas faim, pourquoi manger? Et pourquoi se priver de manger un petit peu plus tard si la faim est arrivée? On peut faire des collations. Alors, les nutritionnistes font la différence, et je pense qu'ils ont raison, les collations, où on mange quand on a faim, avec de la faim, et puis le grignotage, où on mange sans faim. Alors, les collations qui répondent à une faim sont parfaitement légitimes et sont une excellente chose. Et le grignotage où on mange sans faim est généralement pour des raisons psychologiques. Là, ce qu'il faut voir, c'est le côté psychologique de la chose.
On accueille Catherine sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous êtes parfaitement d'accord avec tout ce que dit le docteur Apfeldorfer cet après-midi?
Ah oui, je suis tout à fait d'accord parce que, comment dire, moi j'avais atteint un poids un petit peu critique avec une trop bonne vie de famille, les soucis qu'on peut avoir après 50 ans, etc. J'arrivais à un poids de, 94 kilos pour 1m70, donc je commençais vraiment à pas me sentir bien du tout. J'avais envisagé la pose même d'un anneau gastrique sur les conseils d'une amie, et puis finalement j'ai jugé que c'était pas vraiment raisonnable et que de toute façon la pose de l'anneau ce n'était qu'une étape, mais que de toute façon il fallait arriver effectivement à contrôler et à se reprendre en main. Donc je ne l'ai pas fait. Au mois de mars, j'ai décidé de faire ce que j'avais appelé toute seule un régime de bon sens, en me souvenant de ce que j'avais entendu dire, je crois, une fois par le docteur Apfeldorfer, c'est-à-dire un peu de tout et pas tout seul.
C'est ça, docteur?
Oui, ben voilà, c'est bien, un peu de tout, ce dont on a envie, et pas tout seul, ça c'est très bien aussi de le dire, parce que je crois que la convivialité, voilà, c'est quelque chose de fondamental. Mmh. On est en France, et les sociologues ont fait des études sur les comportements alimentaires européens et américains. Et on s'est aperçu que les Français, la caractéristique des conduites alimentaires des Français, c'est le centrage sur le plaisir à manger et la convivialité. Alors que les Américains, c'est un centrage sur la diététique et sur la responsabilité individuelle.
Et on peut y arriver, docteur. On peut vraiment partager des repas en famille, des repas de fête, tout en maîtrisant totalement son alimentation et en ne prenant pas forcément des kilos.
Bien sûr, c'est la façon normale, naturelle de manger, c'est de partager avec les autres, de manger des choses qui sont
des
bonnes,
petites quantités, mais
que
agréables,
l'on aime,
de produits,
absolument,
d'aliments agréables,
mais pas plus que son appétit. Et si un jour on
mange... Donc manger lentement.
Absolument, manger attentivement, je dirais, parce que manger lentement, c'est pénible. Manger attentivement en faisant attention à ce qui se passe dans sa bouche,
déguster,
aux sensations qu'on a dans la bouche, et en essayant de repérer, d'abord d'avoir son plaisir, bien évidemment, et de repérer la fin du plaisir.
Voilà, bah c'est ce qu'a fait Catherine, en tout cas. Merci beaucoup Catherine, on accueille Pamela sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Pamela.
Bonjour messieurs, bonjour.
Alors vous, Pamela, vous faites du yo-yo comme beaucoup d'entre nous.
Je fais énormément de yo-yo.
Et c'est un calvaire.
Je ne me supporte plus.
Vous êtes jeune, vous avez 32 ans, Pamela.
Exactement, je suis très jeune. Enfin, je suis très jeune pour le poids que je fais. Et il se trouve que j'ai eu de grossesse. J'ai pris des poids tout à fait raisonnables. J'ai perdu les kilos de grossesse la semaine en sortant de la maternité. Donc, je pourrais même pas mettre ça entre guillemets sur le fait d'avoir deux enfants. Non, là, j'ai pris en 3 ans, j'ai pris 30 kilos à tel point que je me supporte absolument plus. Et je sais que je ne sais pas reconnaître le sentiment de satiété. Je suis plus dans la quantité à vouloir, pour dire vraiment, m'empiffrer en nourriture. Et là, à tel point que je me reconnais tout à fait dans l'auditrice de précédente, parce que je souhaiterais en fait me faire poser un anneau ou alors faire une sleeve, c'est-à-dire l'ablation d'une partie de l'estomac, parce que pour moi, c'est le seul moyen de maigrir.
C'est ce que vous croyez, Pamela. Restez avec nous, Pamela, alors, parce que votre témoignage résume beaucoup, beaucoup de témoignages que l'on reçoit. Restez avec nous quelques secondes pour une petite pause musicale. On se retrouve et là, le docteur Gérard Appel-Dolfer va vous prendre en main et vous éviter certainement de passer sur la table d'opération. Restez avec nous.
Les experts Europe 1, tous les jours, 15h, 16h.
Roland Pérez.
On voit cet après-midi que maigrir, c'est vraiment dans la tête. C'est le livre d'ailleurs du docteur Gérard Appel-Dolfer aux éditions Odile Jacob. On était avec Pamela juste avant cette petite coupure musicale pour qui son poids est devenu un véritable calvaire. Elle est jeune, elle est avec nous en ligne, elle a 32 ans. Elle dit qu'elle fait du yo-yo avec son poids, elle n'y arrive plus, docteur. C'est bien cela, Pamela?
Oui, c'est exactement ça pour résumer. En plus, je suis une épicurienne, donc tout ce qui est repas de famille, des bons vins, enfin ça me connaît. Et voilà, pour moi, c'est incompatible de maigrir.
Et elle en était envisagée une solution chirurgicale.
Oui, voilà. Totalement, j'attends rendez-vous chez le docteur pour aller voir le chirurgien.
Alors, écoutez-nous avant d'aller voir le docteur.
Bonjour Pamela.
Bonjour docteur.
Et bon, ce que je vais vous dire, c'est, pour moi, si vous voulez, la chirurgie, c'est vraiment la dernière chance. C'est quand tout le reste a échoué. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le définit, on définit les bonnes indications de la chirurgie. D'abord, il faut essayer autre chose, et si ça marche pas, il reste la chirurgie. Mais il faut quand même se rappeler qu'une sleeve gastrectomie, par exemple, c'est quelque chose de définitif. C'est vraiment quelque chose sur lequel on ne revient pas. Alors moi, avant que vous vous lanciez là-dedans, je vous conseillerais peut-être de faire la paix avec votre corps et d'essayer de travailler sur vous-même pour récupérer des sensations alimentaires que vous avez perdues. C'est faisable. Peut-être qu'il sera aussi nécessaire que vous travailliez aussi sur des aspects psychologiques, sur vos émotions, qui jouent peut-être un grand rôle dans vos prises alimentaires.
Il faut qu'elle consulte qui, dans ce cas-là, un psychologue ?
Alors, il faut qu'elle consulte essentiellement quelqu'un qui a une grande expérience des troubles du comportement alimentaire. Et nous avons mis en place un site, le gros.org, sur lequel nous donnons des adresses de gens compétents qui peuvent peut-être vous aider dans ce sens-là. Et puis, il y a aussi donc, le site dont je parlais tout à l'heure, linecoaching.com, qui propose les mêmes choses directement sur Internet. Alors, si ça ne marche pas, à ce moment-là, peut-être, vous pourriez aller voir le chirurgien.
Olivia, oui.
Je pense qu'associer aussi peut-être un régime ou une restriction avec du sport, ça peut aider aussi les personnes à ressentir en fait leur corps, sentir se tonifier. Et ça,
c'est ce que vous dites dans votre livre aussi.
Alors, hein. Tout à fait d'accord sur l'exercice physique. Je pense que l'exercice physique, on n'en a pas parlé, mais c'est effectivement un peu dommage. Parce que remettre son corps en mouvement, ressentir son corps, est une chose fondamentale. La plupart des gens qui ont des problèmes pondéraux sont coupés de leur propre corps, ils l'ont oublié.
Ils ne veulent rien.
Voilà, ils ne veulent rien connaître de leur corps. Alors il faut le réhabiter, ce corps. Et quelquefois, effectivement, des petits exercices, il s'agit de le remettre en mouvement, il s'agit de le rendre existant, ce corps, et à ce moment-là, ça nous permet de le réhabiter correctement et de retrouver aussi ses sensations alimentaires.
Vous avez essayé, Pamela, aussi également, le sport ?
Écoutez, pour rien vous cacher, je viens juste de me racheter un vélo elliptique. Il y a une semaine, je me suis dit qu'il faut absolument que je trouve le temps, parce que je n'ai même pas le temps pour moi, très sincèrement, entre le travail et les enfants. C'est vrai que trouver du temps à la salle de sport, c'est quasi impossible. Donc je me suis dit que j'allais amener le sport à la maison. Mais c'est vrai que c'est très difficile de se motiver, c'est-à-dire que je pars de loin, entre guillemets, et de regarder l'état de mon corps, ben je me dis, foutu pour foutu, tant pis.
Non, jamais renoncer, ouais, Pamela.
Pamela, je crois que ce qu'il faut... Alors, faire de l'exercice physique est une excellente chose, vous avez acheté un elliptique, c'est une bonne idée. Maintenant, la question, c'est de savoir comment s'en servir. Si vous le voyez comme une machine à faire évaporer les calories, c'est fichu d'avance. Si vous le voyez comme quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience de ce corps, de mieux l'habiter et vraiment de faire un avec lui, à ce moment-là, vous êtes dans la bonne direction. Et vous pouvez le faire avec cet elliptique.
Bon courage, Pamela.
Allez,
annulez votre rendez-vous, hein, chez le médecin, chez le chirurgien. Alors, on a reçu beaucoup. On n'a malheureusement pas pu prendre tous les appels. On a Fabien qui nous appelait pour nous dire que j'ai pris des cachets illégaux en Europe pour maigrir. Cela a très bien marché sur moi. Et du coup, je ne sais pas trop pourquoi ils ont été interdits.
Ah, ils ont été interdits parce qu'ils sont extrêmement nocifs pour la santé. Donc, y a un certain nombre de médicaments qui provoquaient de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une maladie mortelle.
Bon, c'est vraiment à déconseiller et à proscrire.
Oui,
hein.
Oui, voilà. Et surtout les trucs qu'on trouve sur Internet et qui sont interdits, bien évidemment.
Merci beaucoup, docteur Gérard Felderfer. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre, Maigrir, c'est dans la tête. Vous avez donc linecoach.fr. Linecoaching.fr, c'est votre site Internet où on peut retrouver également tous vos conseils. Merci beaucoup, Olivia. Demain, Olivia, on va voir qu'on n'est pas égaux face à la joie, alors que l'optimisme peut guérir et guérir bien des maux, voire même ou autour de vous, vous préférez, vous voyez des gens qui préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. L'optimisme dans notre vie sociale, dans notre vie même de santé, dans notre vie professionnelle peut être véritablement un atout. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous avez probablement des questions à nous poser sur cet optimisme? Je recevrai demain une psychothérapeute qui est également enseignante à l'École internationale du rire. C'est demain sur Europe 1 à partir de 15h.
À demain, Roland.